Et oui, c'était Silicon Soul sur le 93.9 de Divergence. Il est 18h passé de 30 grosses minutes. C'est tout de suite Mardi Blabla présenté par François Barrès et Vincent Cavaroc.
Entrez.
Un conseil, madame. Un conseil, monsieur.
Le mardi.
Mangez. Mangez sain. Mangez frais. Mangez...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger les mardis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent, il faut manger, manger, manger les mardis. Et des tas de laitues et des tonnes de pissenlits.
Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Bisous, bisous, zou, bisous, zou, bisous, le bruit des bisous.
Mardi.
Blablabla. Bla, 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 bla.
Très chers auditeurs, très chères auditrices, avant tout. Il est temps de retrouver Mardi Blabla, rendez-vous hebdomadaire qui avait fait faux bond depuis quelques temps, mais parce qu'il y avait la trêve des confiseurs, mon cher François.
Et oui, on en profite pour souhaiter une très très bonne année 2010 à tous les auditeurs de Mardi, et Dieu sait qu'ils sont extrêmement nombreux.
Nous en avons dénombré 11 sur notre, grâce à notre outil internet. Si vous écoutez Blabla, vous pouvez nous envoyer un mail, ça nous réchaufferait le cœur comme ça. Oui, des vœux culturels évidemment, parce que vous l'avez compris, nous traitons semaine après semaine sous diverses formules de mardi, des rencontres, des témoignages, tout ça au cœur de la culture, c'est ce qui nous anime.
C'est ce qui nous anime et c'est ce qui va nous animer jusqu'au mois de juin, parce qu'on sera là toutes les semaines, comme on l'a été dans le premier trimestre. On sera là un peu différemment, mais on vous expliquera ça plus tard, on a le temps. Aujourd'hui, on va blablater comme on le fait une fois par mois. On va blablater avec pas mal de gens, hein, finalement.
Exactement. Premier invité, c'est l'exposition possible. C'est du 24 janvier au 15 mars. Nous aurons Maya Fastinger, j'espère qu'on le prononce comme ça, ou Fastinger, il y a plusieurs écoles, j'imagine. Également Elsa de Caudin, Pulx Company. Ça, c'est pour cette exposition qui sera une forme de préambule à la représentation de Kern. C'est le collectif Exit et ça se passera en mars au Théâtre Jean Villard.
C'est une exposition parcours qui va durer de maintenant au mois de mars, hein, dans plein de lieux de la ville. J'en ai dénombré 11, mais ils nous diront ça plus facilement. Ensuite, on recevra...
Valérie Hernandez, c'est la rédac culture, rédac chef culture de la Gazette, l'hebdo numéro 1 à Montpellier. Et on parlera culture et région.
Culture région, échéance, prochaines élections régionales, comment est-ce qu'on voit ça de la presse, voilà, enfin de la presse écrite, on avait envie d'avoir cette petite discussion avec Valérie Hernandez qu'on aime bien.
Une forme de bilan sur ces 5 années avec Georges Frêche et on ouvre des perspectives, voir ce qu'il pourrait advenir des 5 prochaines années.
Absolument, et en dernière partie d'émission, on recevra nos chouchous, recevra Jérôme Carfield, le résident du Rockstar des nuits du jeudi soir.
Et sans doute accompagné de son acolyte...
Non, Bouzig.
Bouzig.
Oh, merveilleux.
Et ils viendront nous présenter une soirée non moins merveilleuse, c'est au Rockstar le 30 janvier, My Life The Weekend. My Life The Weekend, c'est un concept bouzigesque, on pourrait dire. Et ils reçoivent Cap Bambino, DJ Pony et DJ Need, et ça c'est les gens de Birdie Nam Nam. Et évidemment... Les deux sbires, Garfield et Bouzig seront également aux platines. Voilà, un petit programme éclectique, riche. Et on commence évidemment avec une exclue de la semaine. C'est Owen Pallett, qui était plus connu sous le nom de Final Fantasy. Il sort un album appelé Heartland, qui sortira le 25 janvier. Et le morceau s'appelle Lewis Takes Action.
Et nous voilà de retour à l'antenne. C'était Owen Palette. C'est gentil, hein. Ça va pas nous énerver. Ça.
Mais écoute, on n'est pas là pour être méchant, que je sache. C'est Owen Palette, ouais, Final Fantasy. Il a repris son nom de jeune fille, disons, pour signer ce nouvel album qui sort le 25 avril. Le 25 janvier, un petit peu, quelques mois d'avance, Heartland. Et nous sommes ici en direct, live, sur Divergence FM 93.9. Avec nos invités, le studio s'est rempli. Et c'est Maya Fastinger à qui on va donner la parole en premier, parce qu'elle fait partie du tiercé, du trio de tête qui fait le commissariat de cette exposition Fleuve, qui va traverser divers endroits de Montpellier. Et pour commencer, peut-être juste, voilà, quelle est l'intention de base ? Je sais que toi, tu viens des Beaux-Arts, plutôt, donc de formation plasticienne. Là, évidemment, tu opères une mutation, tu vas vers le commissariat d'exposition pour préparer le terrain vers peut-être une apothéose qui sera la création de Kern, du collectif Exit, au théâtre Jean Villard. Donc voilà, une façon de teaser, comme on pourrait dire, et dans plein de lieux de la ville.
Alors, apothéose pour Kern, j'espère, déjà, on verra bien. En fait, ce projet est né de ma rencontre avec Hélène Soulier, qui est metteur en scène de théâtre, avec qui je me suis rejointe sur des questionnements qui sont pour nous fondamentaux, sans prétention par rapport aux autres, sur l'enjeu, pour ce qu'on appelle l'enjeu social de l'art, à savoir à quoi ça sert, finalement, à qui on s'adresse quand on fait de l'art ou des images ou de la musique. Enfin, pour nous, des images et du théâtre, en l'occurrence.
Oui, pardon. Non, excuse-moi. Est-ce que, justement, d'entrée de jeu, est-ce qu'on a encore des choses à dire sur ce sujet-là, sur ce binôme l'art dans sa confrontation à la sphère sociale ? Et j'imagine qu'évidemment, c'est une fausse question, parce qu'évidemment, on a des choses à dire, mais dans quelle chose tu vas puiser, vous allez puiser, dans quel référent théorique ? Parce que ça, c'est une question qui a été quand même beaucoup traitée.
C'est une question qui a été beaucoup traitée, effectivement, à différentes époques. Je pense que c'est un bon moment, j'ai envie de dire presque malheureusement, pour la reposer, à savoir que l'art, et par extension la création, mais aussi tous les autres outils de la pensée, ne sont pas en bonne place, à notre sens, en tout cas, dans la société actuelle, et ne sont pas relayés, réutilisés, et qu'on est plutôt dans un truc qui va très vite, où on ne nous laisse pas trop le temps de réfléchir et de souffler 5 secondes, et de éventuellement projeter ou rêver une autre façon de faire les choses. Donc, je ne sais pas, je sais pas s'il y a encore des choses à dire. Nous, on en a encore, parce que il me semble que ça revient un petit peu au goût du jour, malheureusement.
Et en général, François ne me contredira pas quand...
Qu'est-ce que t'en sais ?
Voilà, c'est contredit. Quand on est dans des phases politiques comme celle qu'on traverse, c'est sûr qu'on est loin de nos 10, 20 glorieuses culturelles des débuts des années 80.
On est loin, oui, mais c'est vrai qu'on vit aussi une époque où on a cette tentation de faire dialoguer comme ça plusieurs pratiques. Chez Exit, c'est pas la première fois qu'il y a des plasticiens, hein. C'est même un leitmotiv, en tout cas un fil d'Ariane du collectif. Là, vous le travaillez différemment. Alors, c'est rigolo, il le disait, ça fait un peu teaser, donc ça fait un peu, il y a un côté marketing derrière ce mot-là, mais en même temps, il y a un côté médiation, parce que le marketing, c'est aussi ça, hein. C'est même si on va pas chercher des clients, là, on va chercher des spectateurs. Comment est-ce que vous avez organisé tout ça, ce que vous dans plein de lieux, je ne sais plus comment j'en ai compté, beaucoup.
Ça 14, veut dire
faire de la production avec ces lieux-là. C'est pas toujours des lieux de spectacle ni d'art d'ailleurs. C'est parfois des lieux de sociabilité de quartier, on va dire. Hein.
Alors déjà, on n'a pas pensé possible comme un teaser de Kern, mais plutôt on a pensé un événement d'ensemble. Et après, on s'est posé la question de la durée nécessaire à la visibilité d'une œuvre d'une œuvre d'art visuel par rapport à l'événement que représente une pièce de théâtre où on invite effectivement, on espère 400 personnes par soir au moins, à venir voir le travail. Et parce qu'on a considéré qu'une œuvre d'art, si on avait concentré tout ça sur une même semaine, c'est possible qu'il aurait perdu de la visibilité. Donc notre démarche, elle n'est pas dans ce sens-là par rapport à Kern. Elle est bien de On est parti de questionnements qu'on a sortis de Cairn, qui sont de fait assez théoriques et pas illustratifs de la pièce, et dont on a cherché des relais dans les travaux d'autres artistes. Effectivement, moi je me suis retrouvée en position de commissariat, on s'est retrouvé en position de commissariat. À la fois, moi j'ai vraiment l'impression là de faire mon boulot d'artiste et pas de devenir commissaire d'exposition en faisant ça. Après, on a travaillé une chose d'ensemble et on a travaillé sur des espaces, entre autres, atypiques pour recevoir des œuvres d'art, effectivement pour aller à la rencontre d'autres publics. Si ces gens-là ont envie, après cette rencontre-là, un peu par hasard avec une œuvre d'art, d'aller voir le reste, Cairn y compris, c'est génial, c'est que ça marche. Après, pour nous, le fait qu'il y ait déjà une rencontre accidentelle et éventuellement que s'ouvre un espace de réflexion, de discussion, de dialogue, un sujet de conversation autre que ceux qui sont quotidiens, c'est déjà, pour nous, ça a déjà fonctionné.
Le living room, l'espace recto verso, le local, transit, coiffé, décoiffé, garage électrique, la place Dionysos, la maison des syndicats, piscine Antigone, mission locale des jeunes Mausson, le petit ballot qui est l'espace restauration du théâtre Jean Villard, et plus diverses interventions dans l'espace public. Effectivement, pour reprendre tes propos, le champ est super large. Ça a dû exiger quand même une démarche multipartenariale assez poussée.
Oui, et alors, on a été... Alors, pour le garage électrique, précision, nous, on connaît bien le garage électrique. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises, mais toute la friche de Mimi, l'espace où est le garage électrique, s'est investi dans Possible. Et de la même manière, on a été... très agréablement surpris de la réactivité de tous ces gens, et y compris de collectifs aussi comme Transit et Pulse qui se sont joints à nous, de leur réaction rapide, de leur envie de participer, de leur investissement enthousiaste. Finalement, on s'est pas senti seul du tout avec ces questionnements-là, donc... Ça répond aussi à la question, est-ce que c'est le moment de reparler de ça? Est-ce qu'on a encore des choses à dire? On n'est pas tout seul, visiblement, à avoir envie de triturer ces questions-là. Donc oui, ça a demandé beaucoup d'investissement collectif, pour le coup, et de chacun, après, de manière autonome, prend en charge un petit bout de cette chose d'ensemble avec nous, et c'est vachement bien.
Est-ce que cette énergie et cette envie que vous avez rencontrée du côté de vos lieux partenaires et autres artistes, vous l'avez retrouvée aussi du côté des politiques et des tutelles ?
On a été un petit peu confronté à un problème de temps. C'est vrai qu'on est parti assez rapide sur ce projet-là et on a été un petit peu confronté à un problème de rythme. Effectivement, des petites structures, entre guillemets, ont réagi plus rapidement. Ceci dit, le théâtre Jean Villard, quand même, a collaboré avec nous sur ce projet. La Chapelle aussi, enfin, d'autres lieux un peu plus gros, entre guillemets, de Montpellier nous ont suivis. Et pour la suite, je vais m'arrêter là, parce que je n'ai pas toutes les infos encore. Je ne sais pas, il y a des réponses que je n'ai pas.
Excroissance, c'est une association.
Oui.
Comment est née cette expérience? Parce que j'ai l'impression qu'il y a le collectif Exit. Il y a Excroissance qui est forcément une excroissance d'Exit dans un sens.
Alors il y avait au départ Exit Company, qui est déjà en place depuis quelques années à Montpellier. Et... Donc avec Hélène Soulier, on a senti la nécessité de vraiment mettre en commun nos langages et nos façons d'aborder les choses au sein de projets sur un terrain plus large que le théâtre, même si on continue au théâtre. Le collectif Exit abrite Exit Company et Excroissance. D'accord. Après, pour nous, collectif Exit suffit. Voilà.
Je vous propose une première aération musicale avant de rentrer dans le vif du sujet, d'aller un peu plus profondément dans le programme, parler des artistes, des œuvres, et on en a en plus deux à proximité, un à gauche, un à droite. J'espère que ça reflète aucune tendance politique. Nous faisons une petite pause avec le Gun Club. Ça, c'est pas très nouveau.
Mais qu'est-ce que t'es allé chercher ça? T'étais même pas né quand le Gun Club était sur scène.
Si je n'écoutais que des choses lié à ma naissance, j'écouterai un paquet de merde. Et c'est Texas Serenade, un morceau de l'album Miami. Et il y a une actualité, oui, parce que le Gun Club a formé les esprits de pas mal de jeunes musiciens et pas mal de pointures qui se regroupent aujourd'hui pour un album hommage qui sort ce mois-ci.
Un hommage à Jeffrey et à Kid Congo qu'on a vu il n'y a pas très très longtemps dans la salle de la TAF, puisqu'il tourne maintenant tout seul avec son groupe Kid Congo and the Pink Flowers, qu'on a utilisé dans plusieurs Miam Miam, parce que son album s'appelait The History of French Cuisine.
Exactly.
You stared on the lawn of the house that he owned. Mexican neighbors and women stand crying.
Oh, where's our screamer? I don't care.
Et nous sommes mardi 18h51, ça c'est la preuve que nous sommes en direct, hein. Comme ça c'est un petit signe. J'aurais été dans la presse écrite, j'aurais pris, enfin à la télé j'aurais pris un journal du jour comme ça pour vous faire voir que je suis un otage tout frais. Et c'était le Gun Club nous a pas pris un otage, Texas Serenade, l'album c'est Miami. Et nous sommes toujours en présence de Maya Fastinger pour l'exposition Possible, avec un S entre parenthèses à la fin parce que le champ des possibles est ouvert. Et aussi un 1, me semble-t-il, un 1 qui pourrait aller après Possible, parce qu'on imagine que c'est une première édition qui pourrait amener une longue lignée d'éditions. C'est votre objectif ?
Une longue lignée d'éditions sous la même forme, j'en sais rien, parce que Possible, c'est quand même une expérience. Et l'ensemble de ce projet-là, incluant Kern, est pour nous une expérience. Dont on espère bien tirer les leçons pour, oui, des possibles 2, 3, 4, 12, j'en sais rien, mais sous diverses formes en tout cas. Ça peut s'étendre, ça peut repartir sur des petites choses. Ça, j'avoue qu'on attend de laisser passer cette édition-là pour savoir ce qu'on va en faire après.
Bon, vas-y François.
On parlait, juste avant que Jeffrey Lee Pierce et sa belle voix nous coupent, on parlait du soutien que vous avez pu avoir. Il y a des petites choses quand même, vous rentrez dans la piscine.
Oui, effectivement, j'oubliais tout à l'heure que l'agglomération de Montpellier nous a ouvert les portes de la piscine d'Antigone, chose dont on est ravis.
C'est un chouette lieu quand même.
C'est un chouette lieu visuellement, quoi. Après, notre envie d'aller là-bas était un peu intuitive. Mais c'est surtout un lieu qui, à notre sens, brasse une quantité, une variété de gens, à mon avis, peu égalée à Montpellier.
Et le terme brasse est particulièrement bien choisi pour la piscine. Vous ne leur aviez pas dit, quand même, au moment de la demande, que vous vouliez vider la piscine intégralement ?
Non, effectivement, on ne leur a pas dit. On n'a pas dit non plus qu'on allait enlever les vitres pour les changer de couleur. Voilà.
C'est quel type d'action qu'il va y avoir sur la piscine, justement ?
Alors, à la piscine, on va montrer une pièce du FRAC qui est, alors je parle très mal allemand, Sprechblasen de Christina Solomouka. C'est une installation, c'est un haut-parleur qui envoie des bulles de savon. Ça, ce sera sur la mezzanine côté sud. La mezzanine est donc au-dessus de la piscine. Elle est accessible même quand on ne veut pas aller nager et elle embrasse tout le bassin. Elle est visible du bassin aussi. Et il y aura en fait des vidéos seront de Amélia Seymour et Denis Savary seront diffusées sur les écrans dans le hall d'accueil en intermittence avec les programmes de l'aglo.
Très bien.
Voilà.
Super. Ouais. Alors ça va démarrer le 24 janvier hein, avec Marie-Christine Laurel, ça sera au Living Room. Et puis le 25, dès le 25, où est-ce que c'est ? À Rétroverso, on va retrouver le collectif Pulx. Ils sont là, le collectif Pulx.
Une partie du collectif Pulx. Et là, on a la partie mâle, masculine du Pulx. Salut messieurs, Bastien et Jip. Mmh. On vous avait déjà reçu pour, me semble, pour Saint-Tony.
Possible.
Ouais, si, en tout cas, Elsa.
C'était la partie fille qui était.
Ouais, c'était la partie fille. Effectivement.
On travaille sur la parité, effectivement, des interventions.
Ce soir, Elsa nous écoute depuis son bas. Voilà.
D'accord.
Et continue à dire possible dès que tu peux, c'est pas
ouais, c'est bien.
Qu'est-ce que vous allez proposer justement ici ?
Alors, nous, on va proposer une BIRD, une brigade d'intervention rapide dansée, qui est en fait une performance à mise en place rapide qui s'adapte à un lieu, à une thématique, et qui se met en place de manière rapide et qui est de l'ordre du spectacle. De l'unité, on va dire. On le fait une fois et puis voilà.
Et qui intègre une large part d'improvisation ou...
Qui intègre une large part d'improvisation avec quand même une réflexion préalable et puis un canevas et voilà.
Mais ça intègre effectivement une grande part d'improvisation pour s'adapter précisément au contexte, au moment, au spectateur.
Au lieu aussi, puisqu'on a découvert, enfin Jip et moi, on a découvert le lieu aujourd'hui.
Rectoverso, c'est un lieu qui est assez neuf. Hein. Ouais, c'est un lieu qui est un espace d'exposition, mais qui est d'abord un espace dédié à, je sais pas, aux sciences de la relaxation, on va dire. Tout ça,
C'est les deux.
C'est les deux. Au fond, en fait, il y a une salle qui est dédiée aux sciences de la relaxation. Et puis devant, il y a un espace qui est plus un espace d'exposition avec une belle vitrine qui donne sur la rue.
Les sciences de la relaxation. J'ai l'impression que je suis absolument le seul à pas être dans la confidence.
La psychothérapie corporelle, tous ces trucs-là.
Alors, tout comme Exit, enfin, de façon très différente, Pulx, effectivement, il y a bon, le rapport à la danse qui est devant, mais une vraie... vous touchez aussi à tout. Toi, tu es photographe de voilà. métier, mmh. et tu travailles notamment avec, au sein du collectif Transit.
Voilà.
Toi, tu es musicien.
C'est ça.
Expérimentateur sonore. Et c'est l'union, justement, de la musique, de la danse et du rapport à l'image. Et c'est quand même... Ça constitue l'ossature de Pulx. Et est-ce qu'on retrouvera justement cette ossature-là au sein des Birds ?
Au sein de celle-ci, oui. Puisqu'effectivement, on est les trois, l'équipe qui avons monté, donc Saint-Tony, Eliki, Jip, Elsa et moi, à travailler sur cette Bird-là. Après, il y a aussi des événements qui se font sans images. C'est pas le...
La forme n'est pas figée.
Voilà, la forme n'est pas figée. Il y a des gens qui vont rentrer, par exemple, pour la prochaine création de l'année prochaine et qui sont plus de l'ordre de la poésie sonore ou des musiciens avec des vrais instruments, on va dire, qui ne sont pas des instruments informatiques. Et il n'y aura a priori pas d'image sur la prochaine création. Donc, en fait, là, c'est à ce moment-là, maintenant, on travaille sur cette bird qui s'appelle « Contenir ». Et il se trouve qu'on est les trois disposés à passer du temps, à monter quelque chose et puis à se faire plaisir, à montrer aussi à un public différent qui n'est pas forcément, je pense, un public du centre-ville. Et je trouve ça intéressant de aussi se délocaliser et puis aller voir des gens à Celle-Neuve. Moi, je connaissais très peu Celle-Neuve, en fait, jusqu'à maintenant.
Maya, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers Pulx ? Comment s'est créé ce point de rencontre ?
Un petit peu par hasard, parce qu'au départ, moi, je suis allée vers Transit et Bastien a fait le lien et la boucle s'est faite par Hélène qui connaissait Pulx. Donc, ça s'est fait un petit peu par hasard comme ça. Mais ce que je note et ce qui nous a intéressé, nous, c'est cette chose de l'instant. Nous aussi, c'est quelque chose qu'on questionne, même si les formes qu'on met en place, en tout cas, cette fois-ci, ne sont pas de l'ordre de l'improvisation et tout ça. C'est vraiment l'idée que la chose se construit aussi et ne prend sens qu'avec la présence du public. Et le fait d'aller dans ces lieux-là, dont l'espace Recto Verso en l'occurrence, mais dans les autres lieux, la façon dont on essaye de travailler au théâtre aussi, tend vers ça, à une chose qui se passe quand même en construction, qui inclut le spectateur dans la construction d'un sens, ou de plusieurs sens d'ailleurs.
Voilà. Alors l'ouverture, on n'a pas dit, ça se fera au Living Room, un espace dont on avait reçu justement la personne qui a monté ce lieu de ses petites mains, qui essaie de le faire vivre comme ça au quotidien et qui arrive bien, avec même des partenariats avec les Beaux-Arts, des ouvertures, un vrai lieu de travail, ce qui est de plus en plus rare parce qu'on est toujours dans des lieux de visibilité, de monstration. Là, c'est un lieu avant tout pour le travail avec quelques... comme ça, ouverture publique. Ça, j'imagine que la démarche du Living Room, forcément, va dans le sens de vos envies.
Oui, j'ai rencontré Valérie au moment où j'ai commencé à défricher pour possible. Et effectivement, la rencontre s'est faite tout de suite sur les enjeux, sur aussi simplement la conscience qu'un lieu s'inscrit aussi dans un quartier, une rue, que des gens y passent devant et qu'on ne s'adresse pas seulement à un public qui a l'habitude d'aller vers ces lieux-là, mais qu'on peut aussi simplement s'adresser à ses voisins. Et le projet de Marie-Christine Laurel que Valérie a invité elle-même, elle a fait une proposition autonome aussi au sein de Possible, est assez beau et va vraiment dans ce sens-là. Elle propose aux gens des rendez-vous pour passer un petit moment avec eux dans leur journée, ce qu'elle appelle les temps incompressibles qu'on considère perdus, les attentes, les trajets. Et en fait, c'est vraiment un projet de création orale dans l'échange. Elle va consigner après par écrit ces choses-là et ces livres-là vont être diffusés, vont circuler et on espère peut-être revenir et peut-être pas, et c'est même pas grave. Devenir des pièces uniques aussi, parce que les gens, il y aura des pages blanches à remplir pour d'autres gens dans d'autres espaces d'attente. Et c'est vraiment un projet qui a l'air peu palpable comme ça, mais qui est vraiment sur l'échange et la rencontre.
Et cette idée aussi de documentation, de mémoire, fait écho à un de vos projets aussi, qui est peut-être à terme de pouvoir avoir un catalogue d'exposition qui retracera toute l'expérience.
Ouais, et puis j'ai même pas envie d'appeler ça un catalogue parce que ça va dépasser. Il va y avoir, oui, compte rendu comme un catalogue d'exposition le fait des œuvres des artistes présentés ou de leur travail. Mais on aimerait vraiment que ça puisse contenir aussi autant que possible des réactions des gens à ce projet-là, autant qu'on pourra les récolter. On aimerait aussi que ça soit, on sait pas encore quelle forme ça va avoir, mais que ça soit vraiment un nouvel outil de réflexion, peut-être déjà un possible 2 finalement, avec à demander des textes, j'en sais rien, à récolter des textes ailleurs, des choses qu'on n'aura pas montrées dans Possible, qui auraient pu y être, et étendre, le faire encore prendre de l'ampleur ou à cet espace de réflexion, à ces espaces de réflexion là.
Voilà. Alors quand on regarde le riche programme, évidemment, on va pas pouvoir évoquer l'antenne chaque soirée. Quelles sont pour toi justement les rencontres un petit peu les plus incongrues dans ce rapport à surprendre un spectateur qui n'a pas été forcément convoqué à l'origine et qui va dans ses déambulations quotidiennes tomber sur des œuvres un petit peu incroyables.
C'est une drôle de question. Un petit peu. Oui, alors oui, je vais dire, j'ai pas envie de choisir parce que pour moi, chaque événement a autant d'importance. Et pour juste préciser ça, il y en a un par jour du 24 au 30 janvier. Le 24, c'est à 11h, le 30, c'est à 14h et les autres soirs, c'est à 19h. Mmh. Tout est sur le blog. Mais oui, ce sera pour moi ce qui est peut-être le plus expérimental pourrait être les photos de Gerd Goiris, Polarline et Hill of Sky à la mission locale des jeunes à La Mosson. Ces photos vont prendre la place de panneaux d'information qui sont là toute l'année, relayant donc des infos sur la recherche d'emploi, etc. Et elles font le même format. Et ça m'intéresse beaucoup de voir ce que va susciter cette prise temporaire de place à cet endroit-là, dans le hall d'accueil. Voilà, et c'est effectivement des photos très ouvertes. C'est des paysages. C'est ce que ça peut susciter en termes de rencontres sensibles. Bah, j'ai pas envie de m'avancer dessus, j'en sais rien. Mais voilà.
Il y a aussi cette extension jusqu'au 15 mars, parce que là, on évoquait depuis le début du 24 au 30 janvier ce rapport à un quotidien avec toutes ces interventions. Et jusqu'au 15 mars, il y a encore plein d'autres choses. Et là, c'est sur un format d'exposition un peu plus classique.
Pour être précise, tout ce qui va être lancé du 24 au 30 janvier va perdurer aussi jusqu'au 15 mars. Sur certains lieux, c'est peut-être le 5 mars, enfin, tout est dans le programme qui sera diffusé sur papier dès demain dans Montpellier et qui est donc disponible sur le blog. Mais tout perdure après. Il y a des lieux où c'était un peu compliqué pour nous d'organiser des vernissages ou des comme la piscine, où là ça devenait une autre gestion qu'on n'a pas pu mettre en place cette fois-ci. Mais tout va globalement jusqu'au 15 mars, l'ensemble des expositions.
Voilà. Donc plus d'informations évidemment sur le blog. Le blog, on le retrouve sur http://possible1.blog4. Ça, c'est le chiffre aussi, ever.com.
Évidemment, tout ça est sur le site de Divergence.
Exactement, ça c'est sur notre post d'aujourd'hui, vous retrouvez toutes les informations. Et on vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup, merci à vous Bastien, Jip et Maya d'avoir participé à cette petite séquence. Petite pause musicale avant de retrouver Valérie Hernandez de La Gazette pour notre sujet culture et région. C'est Arnaud, Florent, Didier, le morceau c'est France Culture et l'album c'est La Reproduction.
Il ne m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand, ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées, pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture, faire monter une mayonnaise, monter une SARL, tenir un intérieur. Il ne connaissait pas grand-chose en mathématiques, ni équations de Schrödinger, mais pour être honnête, on a veillé à ce que je perfectionne mon revers à deux mains, que je fléchisse bien sur mes jambes, mais ça n'est pas resté, ça n'est pas rentré. On m'a donné un modèle libéral, démocratique, on m'a donné un certain dégoût, disons, désintérêt de la religion. Mais il ne m'a pas dit à quoi servait le piano, ni le cinéma français qui pourtant le faisait vivre. Elle ne m'a pas dit comment elle s'était mariée, trompée, séparée, ni donné d'autres modèles à suivre. On m'a pas parlé de Marx, rival de Tocqueville, ni Weber, ennemi de Lukács, mais on m'a dit qu'il fallait voter. Elle n'a pas caché l'existence, mais a tu celle de Rousseau, de Proust, de Mort à Crédit. Ils n'ont fait aucun commentaire sur mes 68, ni commentaire sur la société du spectacle. Mais ils savaient que Balzac était plié à la ligne, qu'on pouvait en tirer un certain mépris. Ils ne connaissaient pas d'histoire de résistance ou de Gestapo, mais quelques arnaques pour payer moins d'impôts. Ils se souvenaient en souriant de la carte du PC de leur père, mais peu de De Gaulle, une blague sur Pétain, rien sur Hitler. Ils avaient connu le monde sans télévision, mais n'en disaient rien. Ils n'avaient pas voulu que je regarde Apocalypse Now, mais je pouvais lire Au cœur des ténèbres. Je ne l'ai pas lu, on m'a pas dit que c'était bien. On m'a pas dit comment faire avec les filles, comment faire avec l'argent, comment faire avec les morts. Il fallait trouver comment vivre avec demi-frère, demi-sœur, demi-mort, demi-compagne, maîtresse et remarié, alcoolique, pas français. Fils de gauche, tu milites, milites, fils de droite, hérite, profite. On ne m'a pas donné de coups, on m'a sans doute aimé beaucoup. Il n'y avait pas de choses à faire, à part peut-être polytechnicien. Il n'y avait pas de choses à ne pas faire, à part peut-être un musicien. Elle m'a fait sentir que la drogue était trop dangereuse. Il m'a dit que la cigarette était trop chère. Elle m'a dit qu'une fois, elle avait été amoureuse. Elle ne m'a pas dit si ça avait été de mon père. Elle ne m'a pas dit comment faire quand on se sent seul. Il ne m'a pas dit qu'entre vieux amis, souvent on s'engueule. On s'embrouille, que tout se brouille, se complique, qu'il faudrait faire sans. Elle ne m'a rien dit sur Freud et j'ignore Lacan. Pas de conseils ni de raisons pratiques, pas de sagesse des familles, pas d'histoire pour faire dormir les enfants, pas d'histoire pour faire rêver les grands. Il ne soufflait mot de la nouvelle vague ni de ce qu'on voyait avant, mais parlait du Louvre comme d'un truc intéressant. On disait rien sur Michel Sardou, mais on devait aimer Julien Clerc, on m'a parlé d'un concert. Sinon je ne sais rien des pauvres, je ne sais rien des restes d'aristocrates, je ne sais rien des gauchistes, je ne sais rien des nouveaux riches.
Je ne sais rien des nouveaux riches. Ouais, c'est moi non plus, remarque, on n'est pas prêt à faire fortune dans la radio associative en tout cas. France Culture, c'est le morceau, c'est pas la radio, c'est le morceau d'Arnaud, Florent, Didier. L'album, c'est la reproduction, plein de gens l'écoutent. François est plutôt de ceux qui ne l'écoutent pas, mais c'est aussi ça, c'est, on ouvre des fenêtres même à ceux qui aimeraient fermer les portes.
Mais bien sûr.
Et nous sommes ici sur le plateau avec Valérie Hernandez, qui est la plume culturelle de la Gazette, première hebdomadaire de Montpellier et de sa région, me semble-t-il.
Sans doute.
Sans doute, même bonsoir. Sans nul doute, on pourrait dire, qui nous fait la joie, et enfin qui nous fait en tout cas l'honneur d'être ici en pleine soirée de bouclage, parce que quand on est dans la vie d'un hebdo, il y a une temporalité hebdomadaire qui est marquée, et le mardi, c'est pas ravioli, c'est pas non plus repos. Le mardi, c'est bouclage.
C'est bouclage, et à cause de vous, ce sera genre vers 10h ce soir.
Oh. Mais peut-être grâce à nous, demain dans la Gazette, on verra des choses un petit peu pétillantes qui seront sorties d'un esprit un peu plus tardif. On ne sait pas.
En tout cas, je cite ce que je vous disais avant qu'on prenne l'antenne. Je cite votre émission au Pastis avec Ariel Garcia-Valdez, puisqu'on fait un portrait de lui. J'ai à peine pu le voir. Et donc, voilà, cette heure d'émission, c'était vraiment bien. Puis une source d'information sur ce personnage.
Mais disons, c'est un format qui permet à des invités comme ça, qui ne se livrent pas forcément dans la sphère publique, de le format repas, on parle, et il y a des choses assez passionnantes qui peuvent sortir.
Et puis lui, c'est un bon mangeur. Hein.
Il joue demain.
Il joue jeudi et vendredi à Jean Villard, la Mante anglaise donc de Duras, avec Ludmila Mikael.
Et son grand ami André Wims.
Et, ouais, absolument, qui vient souvent au conservatoire.
Alors Valérie, nous t'avons invité à notre micro en tant que pour avoir ton point de vue. D'une part, un point de vue bilan sur ces 5 années qui viennent de s'écouler autour de la politique culturelle, c'est ton domaine. Il y a eu Georges Frêche qui est arrivé à la région. On sait qu'il y a une échéance électorale d'ici quelques mois. C'est les élections régionales. Frêche reconduit ou pas, ça, bon, on va voir. La campagne est lancée en tout cas. Et il y a ce champ-là culturel qui, semble-t-il, a été quand même pas mal défriché. Il y a quand même un énorme travail qui a été fait. François, qui est un observateur de la politique culturelle, peut peut-être pitcher comme ça en quelques mots sur l'avant et l'après et le pendant.
Non, c'est vrai qu'il y a... Moi, pour une partie, c'est mon métier. Alors, il y a plein de choses que je vois évoluer. Et on avait envie de ça, du regard d'une journaliste qui elle a constamment à traiter de l'actualité culturelle et de se dire finalement est-ce que ça a changé quoi en 5 ans, est-ce que Valérie elle a vu les choses différemment, elle a vu d'autres propositions, ou est-ce que c'est un tropisme qu'on a nous observateurs de se dire la façon de faire a changé mais finalement le contenu a pas changé, on reste toujours, est-ce que Montpellier c'est toujours une grosse ville culturelle par exemple, est-ce que la région est-ce que tout ça s'est disséminé un peu ou est-ce qu'il y a plus de choses, est-ce qu'il y a moins de choses, bref il y avait ce côté-là. Alors c'est facile de faire un pitch parce que malgré tout on sortait d'une région qui avait été dirigée par Jacques Blanc dont la politique culturelle c'était essentiellement le livre et puis là il y a plus beaucoup de livres.
Mais moi je voulais commencer par ça, c'est-à-dire que 2004 moi j'ai repris des fonctions à ce poste-là comme responsable culture il y a un an et demi, donc j'ai que ce recul-là. Bon, entre-temps, je me suis occupée d'être maman essentiellement. Mais par contre, je me souviens en 2004 de l'arrivée de Blanc et donc de la suppression assez féroce du CRL. Et j'en vois les conséquences aujourd'hui. C'est-à-dire que,
l'arrivée de Fraîche.
Oui. Pardon, l'arrivée de Fraîche. Le Centre régional des lettres est supprimé par Georges Fraîche. C'était une structure dédiée aux livres mise en place par Jacques Blanc. Et la suppression... Moi, j'étais loin à ce moment-là, mais la suppression de cette structure-là dédiée aux livres avait été scandale total. C'était assez horrible. Et aujourd'hui, j'en vois les conséquences parce que... Est-ce que c'est un mauvais karma du livre en région, ce que je crois ? Il y a une impossibilité, notamment avec la nouvelle structure qui s'appelle LR2L, qui est une espèce d'usine à gaz dont on ne sait pas trop ce qu'elle fait, qui a un gros budget, qui fait beaucoup de colloques. Bon, ils vont être ravis que je parle d'eux comme ça, mais... Moi, je m'interroge sur à quoi sert. Je me souviens, à l'époque du CRL, il y avait une espèce de vie intellectuelle. Il y avait des colloques à Castries, il y avait des éditeurs soutenus. Et aussi, certainement, un système très discutable. Moi, je suis allée à Bagdad avec eux pour observer, donner une conférence, participer à ce qu'ils faisaient. C'est vrai que c'était assez improbable d'emmener des éditeurs régionaux qui s'occupent, de, par exemple, des troubadours, à aller être représentés en Iran. Sous le choc après la guerre d'Iran, c'était assez discutable. Il fallait donc remettre tout ça à plat. Il y avait une déperdition des subventions. De là à arrêter tout ça comme ça, je crois que d'une certaine manière, la vie littéraire s'en est jamais remise. Alors, entre-temps, il y a des auteurs importants qui sont passés par là, qui sont partis. Donc, on est là en ce moment. Bon, il y a de bons auteurs ici, mais c'est vrai que la vie littéraire ne s'en est pas remise. Et aujourd'hui, la formule n'a pas été trouvée qui remplacerait ce défunt CRL. Je crois qu'il y a un vrai regret dans la profession. Et voilà. Et donc, en gros, la vie littéraire est assez ennuyeuse, même s'il y a de bons auteurs ici et là. Donc, pour moi, c'est un peu ça.
Est-ce que cet exemple stigmatise pas un petit peu une tendance globale liée au jeu de l'alternance politique de systématiquement défaire ce qui a été à peu près correctement fait par son opposant précédent et faire ce qui avait plutôt été défait auparavant ?
Oui, bah sans doute, mais c'est dommage. Oui.
Il y avait une vraie histoire personnelle, hein, de toute façon, entre Georges Fraîche et les dirigeants, en tout cas la dirigeante du CRL de l'époque, avec Anne Petit, ça se passait mal depuis.
Oui, mais
vous
voyez,
mois.
Le grand paradoxe, c'est que Jacques Blanc, qui était le roi du saupoudrage, n'était quand même pas quelqu'un qui intervenait dans les contenus sur cette histoire de CRL. En gros, ils ont financé des grands éditeurs de gauche comme Verdier, et c'était pas la question.
Bien sûr, c'était ça le plus incroyable d'ailleurs. Voilà. C'était que Blanc se servait du CRL comme caution de gauche contre ses alliés du Front National. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir de ça. Puis j'ai travaillé pour le CRL à un moment aussi, dans les années 92, un truc comme ça, quoi, je ne sais plus. Le CRL, c'était l'objet d'attaques incessantes de Jamais, des conseillers du Front National. Et Blanc les défendait parce que d'abord, c'était son seul morceau culturel. Et puis, c'était son pendant de gauche. Quoi. Voilà, il avait son joujou parce que de toute façon, c'était des gens qui venaient de là. Hein, c'était des gens qui venaient d'initiatives qui avaient été prises par Georges Fraîche il y a très longtemps.
Mais ça pose la question de l'instrumentalisation de la culture, qui n'est ni de droite ni de gauche. Voilà ce que ça veut dire. Et qui, à mon avis, est encore à l'œuvre aujourd'hui, mais qui s'est cristallisé très fort sur cette histoire-là. Alors après, moi, je reviens un peu et je réfléchissais à dire des choses comme ça, à faire des choix, parce que c'est énorme, ces histoires de culture. Moi, ce qui m'intéresse, j'entends un truc sur l'économie, la culture comme moteur économique, comme moteur de l'économie dans la région. Moi, c'est un discours que j'entends et qui m'intéresse beaucoup plus que bon. Et c'est ça qui est développé actuellement sur le plan régional. Qu'est-ce que ça vaut mais vraiment, et je pense que ça va être un petit peu l'objet là, de la campagne, un des thèmes de campagne, même si la campagne, visiblement menée par Frège, sera surtout sur le politique pur, sur l'économique, et très très peu sur la culture, visiblement. Mais quand même, il y a un discours sur la viticulture, c'est fini, il faut la remplacer par le tourisme. Et une partie du tourisme est liée à la culture. Et le tourisme culturel est une nouvelle poule aux œufs d'or. Et c'est quoi le tourisme culturel? C'est principalement des musées. Et donc, on rêve d'un effet Bilbao sur le modèle du musée Guggenheim à Bilbao, qui a, mine de rien, reconverti toute une région sinistrée en Espagne et qui est le modèle absolu, le fantasme, je dirais absolu, de la politique culturelle. Et ici, ce fantasme joue. Et donc, en gros, ils ont un projet à Narbonne d'un musée de la romanité qui serait le deuxième musée après le Vatican, pas moins. Mais peut-être, peut-être. Et vous voyez, le problème en parlant de la région, c'est que nous, on est hyper montpelliérains. Je crois que c'est aussi un des sujets de l'histoire. Et nous, la Gazette, on nous le reproche beaucoup. Dès qu'il faut sortir à Villeneuve, les maglones en panique. Et d'où la difficulté d'appréhender ce qui se passe. Alors, on en a un peu des... Donc, on peut le juger sur ce qu'on proclame comme politique culturelle. Et moi, je vois ça. Alors, voilà, il y a un type qu'il faudrait peut-être inviter, qui s'appelle Emmanuel Desgriers, qui connaît super bien ces questions-là et qui a écrit un texte qui dit « Attention à ces histoires de politique culturelle, en tout cas de culture comme moteur économique, parce que on considère que la culture a une valeur marchande. Il faut qu'elle ait des retombées économiques. » Et on finit, les politiques finissent par juger la culture uniquement sur ce critère-là de rentabilité, ce qui est aberrant. La culture, c'est aussi un bien immatériel, a priori, enfin, jusqu'à maintenant.
Et il évoque également tout un rapport au festival. Et c'est vrai qu'il y a la tentation de faire de l'événementiel, tape à l'œil. Et je pense qu'il y a eu un effet Avignon qui a fonctionné, qui a été très, très important dans la tête des politiques. L'effet Avignon, au lendemain de la crise des intermittents, et une annulation qui a fait que des centaines et centaines de commerçants se sont aperçus qu'ils avaient perdu énormément d'argent et que la culture, forcément, ça faisait plein il y avait plein de dérivés et plein d'argent à côté de ça.
Et c'est réel, ça. Je crois que c'est réel.
Évidemment.
Alors, le même Emmanuel Desgriers a fait cette étude qui a été présentée récemment. Il y a beaucoup de fric lié à la culture en retombées directes, hôtels, restaurants. Ça, c'est mesuré. Ça, c'est pas du fantasme, par contre. Et Radio France, quand il y avait une menace d'interdiction, tous les hôteliers, les restaurateurs de la ville ont dit « Mais ne faites pas ça, nous, on est plantés. » Donc, et le festival, même de danse, a des... Donc, moi, je crois que ça, c'est vrai, c'est mesurable. Mais le danger, c'est vraiment qu'on mesure. Et d'ailleurs, la région a commandé une étude là-dessus. Et tout le monde craint que, finalement, qu'elle renouvelle ses critères uniquement sur cet aspect-là. Voilà.
Le rapport de la région au cinéma, justement, est assez emblématique de cette question-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est un terrain qui avait été complètement laissé à l'abandon par Jacques Blanc. Et on était une des dernières régions en France à ce sujet-là, notamment en termes d'équipement, de structure d'accueil pour les tournages et de valorisation de nos patrimoines. Parce que
non, on n'avait pas signé de convention avec le CNC. On était une des dernières régions à l'avoir.
Pour moi, c'est la bonne idée de ce mandat de Frèche. C'est d'abord la bonne idée parce que moi, je serais politique. Évidemment, le retour sur image, quand on fait de l'image, il est peut-être plus évident. Enfin, c'est évident de le comprendre. C'est facile à expliquer. Ça, c'est vraiment un bon choix. Et puis, ils ont là aussi des retombées économiques réelles, mesurées. Je crois que la structure donne des chiffres intéressants. Et puis voilà, Jean Dujardin est en ce moment à Montpellier, Palavas. Il y a eu le Rivette. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment à la fois le côté fabrique à rêve de la culture, ça fait sens, c'est une vraie, ça identifie bien un territoire et ça devrait retomber économique. Alors là, moi, je serais tentée de dire, là, c'est pertinent. Pas très compliqué à faire, sans doute, et c'est pertinent.
D'autant quand on a quand même un patrimoine naturel aussi vaste, c'est-à-dire qui va quand même de la mer à la montagne, en passant Lozère au PO.
Le patron de l'Intégration Cinéma le disait au tout début, quand il faisait de l'accueil de tournage, il disait, c'est fabuleux, parce qu'on a des équipes à qui on dit, oula, mais tu sais qu'au mois de février, tu peux avoir la neige et la mer en 25 km. Et là, les équipes faisaient, ah ouais, super. super, je vais gagner 6 mois, génial. Et je me plante au même endroit et donc j'ai les Pyrénées d'un côté, Collioure de l'autre et je peux faire
et
mes
les
plans
quatre
été
saisons
hiver.
Dans une même journée. Non, non, mais ça c'est bien, ça c'est une vraie signature. Je trouve ça plutôt assez réussi. Autant le livre c'est une catastrophe, l'image, le cinéma, je crois que c'est bien.
Nous évoquions ce côté très Montpellier-centré. C'est sûr que Georges Frêche, sa vie, c'est Montpellier. Je veux dire, la ville, l'agglomération, c'est quelqu'un qui a été essentiellement identifié.
Je sais pas, ça c'est ton point de vue. Enfin, ça veut dire quoi?
Non, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a...
Tu veux dire qu'il est toujours maire de Montpellier?
Non, mais ça c'est une autre question, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est quand même quelqu'un qui a été maire 27 ans de Montpellier. Donc,
c'est vrai.
Il faut pas l'oublier.
On s'en souvient.
Il faut pas oublier les dernières années. Et j'imagine que tout le monde l'attendait à cet endroit-là, en région, de se dire forcément cet homme qui a bâti de ses propres mains Montpellier tel qu'on le connaît aujourd'hui, arrive à la région, va réinvestir énormément dans Montpellier en termes de culture. On pourrait dire que c'est un peu le cas avec un musée Fabre qui a été quand même des gros chantiers de...
Ah oui, mais c'est pas la région qui a payé.
Non, c'est l'agglomération. L'agglomération.
La région est peu présente à Montpellier. La région est très très peu présente à Montpellier. C'est l'essentiel des grandes structures, festivals, musées Fabre, opéra comédie, c'est l'aglo. Bon, c'est pas très différent, vous allez me dire, mais sur le plan du pouvoir, mais c'est une autre histoire quand même.
Il y a eu une petite bascule, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une partie des fonds qui étaient donnés par Montpellier Agglomération qui sont maintenant donnés par la région.
Absolument.
Et il y a eu un rattrapage, comme il le disait quand il est arrivé, hein, il faut que la région donne plus aux grosses structures. Mais après, c'est vrai qu'il y avait
l'orchestre,
le problème
par exemple,
l'orchestre
est devenu plus régional qu'aglo.
Oui, le centre chorégraphique également.
C'est vrai.
Ah, c'est vrai que
c'est vrai qu'il y a une bascule au niveau des
chiffres. Il danse énormément en région, le centre chorégraphique, c'est incroyable.
Oui, bah justement, ça c'est intéressant parce qu'il a essayé un des échecs relatifs, enfin échec, c'est qu'il a essayé de faire sortir de son territoire, de leur territoire, les deux grandes structures à la tête desquelles sont les deux grands barons culturels que nous connaissons bien, Jean-Paul Montanari et René Koering, et ils ont beaucoup de mal à faire ça parce que les deux rechignent. Excellent. Celui qui rechigne le moins, et d'ailleurs il est affublé d'un logo Languedoc-Roussillon, l'orchestre et le festival, ce que n'a pas Montpellier Danse. Peut-être qu'à Montpellier Danse, on n'en veut pas ou on a résisté pour le mettre.
Il y a une partie maintenant du programme qui est Montpellier Danse en région et qui est vraiment avec le logo.
Le festival ne s'appelle pas Montpellier Danse Languedoc-Roussillon, tandis que le festival de Radio France s'appelle Festival de Radio France Languedoc-Roussillon. Et l'orchestre, il est aussi national Languedoc-Roussillon. Donc il y en a un qui a accepté l'étiquette, pas l'autre. Et dans les deux cas, je pense qu'ils ont beaucoup de mal. Et bien, on peut comprendre que l'orchestre, avec ses 100 musiciens, ait du mal à... Ils ont vraiment du mal techniquement, financièrement à se déplacer. C'est lourd, un orchestre. Mmh. Et puis, ils considèrent qu'il n'y a pas assez de salles. Même si, il me semble, moi, quand je reçois... Je connais la nouvelle salle de Bédarieux. Il y a des sacrées salles, quand même, qui se sont développées dans la région. On reçoit des catalogues super exigeants, très chics. Quand même, j'ai l'impression que partout, l'exigence a monté dans les programmations. Il se diffuse quand même une exigence de culture, je crois. C'est peut-être un peu nouveau. Alors les élus, ils veulent, ce que raconte Fabrice Manuel, le directeur de la région, les élus, ils veulent d'abord leur festival. Ils veulent un festival, parce que les élus, ils comprennent ça, le festival. Et c'est... Quand on vient leur parler de nouveaux cirques, d'exigences de contenu... Par contre, un festival, ils le comprennent bien, surtout que ça a lieu souvent dans des lieux patrimoniaux, les beaux lieux de la ville, c'est un peu touristique, bon, ça va. Et donc, il y a une demande de subvention, tous azimuts, de tous les, du moins de festivals dans la région. Puis on a un record, hein, c'est plusieurs centaines. Donc ça, c'est le premier niveau. Et là, ils tentent d'intervenir en posant, quand même, en expliquant qu'il faut avoir une ligne, qu'il ne faut pas uniquement faire la tournée de Johnny Hallyday dans un festival, qu'un festival, il faut de la création. Et c'est le premier niveau. Mais moi, je sens monter quand même un niveau général d'exigence culturelle et que le modèle montpelliérain est probablement en train de s'implanter un peu difficilement, mais de s'implanter sur le plan régional.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis les villes, il y a plus d'interlocuteurs. On le voit, les villes se sont dotées de direction de la culture. Nîmes en avait une depuis longtemps, mais Nîmes mène sa barque toute seule, pour le coup.
Ouais.
Mais Narbonne, Carcassonne, c'était des villes dans lesquelles il n'y avait pas d'interlocuteurs. On en a aujourd'hui. Il y a eu dans les choses qui ont été réalisées par la région, il y a eu les partenariats autour du théâtre de Clermont-Lérault notamment. Ouais. Ça ne s'est pas toujours très bien passé d'ailleurs, ces partenariats. Mais en tout cas, c'était une façon de poser et de dire on s'investit là dans un lieu si la communauté de communes s'investit, si le département s'investit, si la DRAC s'investit. C'est-à-dire de reprendre un peu un dialogue entre tous, d'arrêter d'avoir cette impression que chacun faisait son truc dans son coin. Ça a été des pierres posées. Je ne vous dirais pas que c'est un franc succès. Hein. C'est très difficile de faire travailler les départements, les communautés de communes et même la DRAC dans la même direction. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a ces choses-là dans toutes les villes moyennes. On a vu des salles se construire. Ouais. On a vu des programmations commencer à exister, être plus exigeantes. On a vu même des choses qui ont émergé alors qu'on n'était pas sûr du tout que ça se fasse. Le théâtre de Perpignan, c'était une vraie inquiétude. Et puis finalement, ça sort de terre. Il y a déjà un patron, il y aura une programmation. Mais ceci dit, c'était une région en retard. Hein.
Oui, très. Mais il y a aussi un fait culturel. C'est-à-dire que quand Fraîche, à mon avis, est sortie de son territoire montpelliérain pour aller à la conquête du territoire régional, à la fois, il a suscité de l'envie et à la fois un peu de répulsion. C'est-à-dire que le modèle montpelliérain qui prétend conquérir avec ses méthodes ce qu'il a déjà réussi la région, à la fois... Il le dit, ça faisait envie et ça gênait un petit peu. Donc ça, je crois que c'est vrai. Et en même temps, je crois qu'ils ont eu peur du rouleau compresseur. Et c'est vrai qu'il y a certainement un phénomène de rouleau compresseur. Et par exemple, moi, j'ai appris une chose étonnante, c'est qu'ils ont racheté la région, le musée de Sérignan, qui était un musée formidable d'art contemporain.
Un exemple assez incroyable de musée à l'échelle d'une ville, parce que c'était l'histoire d'un homme, le maire.
D'ailleurs, qui a fait perdre certainement en partie sa ville au maire, qui en faisait trop dans un truc élitiste. Et ils l'ont racheté toute la collection et les murs compris pour 1,8 million. D'abord, ça paraît pas énorme.
Non.
Mais surtout, ils ont acheté en bloc comme on le ferait dans une transaction commerciale.
Les employés avec aussi.
Ah oui. Et ça, je le tiens de la DRAC, donc de l'État en région, qui est assez étonné par ce type de pratique qu'il n'a jamais vu. Et donc là, il y a des pratiques d'investissement du territoire qui sont un peu singulières et sur lesquelles l'État s'interroge un petit peu.
Alors, il y a quand même un fait qu'on peut nommer, c'est que durant ce mandat que vient de vivre Georges Fraîche à tête de la région, il y a quand même quelque chose d'assez important qui a été une forme de désengagement de l'État, c'est-à-dire en corollaire, c'est-à-dire partout en France, on connaît un désengagement de l'État en région, notamment sur les questions culturelles. Il est là, présent, mais de moins en moins présent, les DRAC sont de moins en moins dotés financièrement, et ça forcément, ça impose une forme de relais des collectivités territoriales, donc les différents degrés, ville, agglomération, région. Et ça, j'imagine que c'est quand même un facteur à prendre en considération quand on doit juger ces 5 années qui viennent de s'écouler.
C'est à moi que tu poses la question.
Je la pose de façon ouverte à vous deux.
Écoute, il y a un désengagement de l'État qui est difficile à mesurer parce que l'État aime bien jouer avec ses chiffres et il aime bien jouer au bonneteau. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que le spectacle vivant et les arts plastiques notamment ont connu des baisses de niveau. Donc s'il y a plus d'argent, il va ailleurs en tout cas. C'est pas pour autant que les collectivités locales abondent cette perte et c'est normal parce qu'elles n'ont pas de planche à billets. Alors la région a énormément augmenté son budget, hein, elle l'a doublé pendant le mandat. Mais
il fait 37 millions, j'ai regardé avant de partir. Seulement 4% quand même du budget total.
Et oui, parce que le budget de la région a doublé lui aussi pendant le même temps.
D'accord.
Donc finalement, on est resté à un niveau qui était à peu près le niveau d'avant, quoi. Et puis les départements sont plutôt dans une crise financière, globalement. Donc,
et institutionnelle aussi, enfin même.
Oui, dans une crise tout court, t'as raison.
Il y a un désengagement plus fort du côté du département en ce moment que du côté de l'État. Oui. Il y a un fantasme un peu du désengagement de l'État. Quand tu regardes les chiffres, les baisses sont pas. L'aide au festival a baissé, mais elle a pas tant baissé que ça. L'aide aux compagnies théâtrales, Yves Gourmelon me le rappelait il y a pas longtemps, n'est pas si significative que ça. ça. Et en même temps, du coup, la région endosse un peu la responsabilité avec ce discours du désengagement. Mais bon, c'est vrai que symboliquement, en tout cas, il y a un désengagement. Et il y a aussi quand même une tutelle qui continue à s'exercer. On l'a vu dans l'histoire de la nomination de Bessé, de Jean-Marie Bessé à la tête du CNN. C'est l'État qui a nommé. Il faut voir comment. Donc, de manière autoritaire. Donc, il y a quand même un pouvoir symbolique et à la fois, un désengagement, même s'il est relatif. Donc, c'est vrai que les questions de décentralisation, elles sont très fortes en ce moment, très, très vivantes sur le territoire régional. Il y a des gens qui pensent que c'est grave ce qui se passe. J'ai eu Gabriel Monnet au téléphone tout à l'heure, qui connaît bien Ariel Garcia Valdez, sur lequel je l'ai interrogé. Et lui, c'est donc haute figure de la décentralisation française, ce qui est maintenant un vieux monsieur adorable, qui disait qu'il trouve que c'est paniquant ce qui se passe, que, par exemple, pour la nomination de Jean-Marie Bessé, probablement aussi parce qu'il est né à Carcassonne, qu'il a fait un festival à Limoux d'auteurs de théâtre et que le critère régional, ça a joué aux yeux de Georges Frêche, que ce type-là, voilà, vienne de l'Aude, en fait, bon... Eh bien, Monnet dit, y a une espèce de truc d'en haut, il est hyper parisien, même s'il est au doigt un peu, il est surtout parisien. Alors qu'il y avait une génération théâtrale géniale, et c'est vrai ça, issue du conservatoire, et Ariel Garcia Valdez, lui-même, cet acteur, directeur du conservatoire, était pour qu'on choisisse quelqu'un dans ces très jeunes acteurs qui sont nés sur le territoire. Eh bien non, on préfère... donc voilà, et donc... Quand même, je trouve que il me semble que ce mandat, il se termine sur un grand débat sur qu'est-ce que c'est le territoire et les rapports État et région et l'histoire de la décentralisation. Je trouve que ça n'a jamais été aussi fort.
Merci beaucoup, Valérie. On te libère,
merci,
comme on t'avait dit.
À bientôt.
On te libère justement pour refaire le bouclage de la Gazette. On retrouve quoi demain? Il y a ce fameux portrait d'Ariel.
Oui, il y a surtout, il y a la une, un papier sur Sanofi, qui est le premier employeur de la région et qui fait des sortes de licenciements boursiers. Enfin, ce n'est pas des licenciements tout à fait boursiers, parce qu'en gros, Sanofi gagne beaucoup d'argent, notamment avec les vaccins, machin. Mais pour plaire à ses actionnaires, elle supprime des postes, beaucoup de postes ici à Montpellier. Donc ça raconte ça. Voilà.
Merci beaucoup, Valérie Hernandez.
À très bientôt. Au revoir.
À très, très bientôt. François, merci, petite Valérie. Pause musicale.
Une petite pause musicale. Allez, on va écouter Origami. Origami, c'est un titre de Broadway. Broadway, c'est un collectif stéphanois qui en est à son deuxième album, qui fait un drôle de rock expérimental. Le dernier album Gangplank vient de sortir chez Discographe. En tout cas, il est sorti au téléchargement et il sera bientôt dans les bacs. On écoute ça, Origamic, allez.
Always the last train that you've just missed. It was your ugly intellection of background to be given credit, to be admitted. Always the same song at the same most moment. It was a detail that triggers the catastrophes you've been fighting to avoid. Always impossible choses to make. Always the same situation you fake. Always too much. Always ahead of your time. Always judged. Always speechless when boiling inside. Always storming off your earth. Always shooter says. Always very impulsive to be silent. Always gravity walls facing canvas exhaustion. Always naked in front of crowds. Always different but only to be noticed. Always now. Always never. Always good. Always, always. The home of sun.
Lobby.
Et voilà, c'était Broadway Origami, tout droit sorti des studios de cette magnifique salle de musique actuelle de Saint-Étienne, la file. L'album s'appelle Gangplank, c'est sorti chez Discographe et c'est dans les bacs visiblement.
Et on les retrouve régulièrement aussi dans des formules assez incongrues comme des ciné-concerts et autres formes inattendues pour des groupes de rock.
Absolument, ils sont cinq, ils viennent de ça, hein, de l'expérimental, du rock. Et l'album est un peu trop léché peut-être même par rapport au premier qui était un peu plus brut, un peu plus rugueux à écouter, je préférais, perso.
Et là on se retrouve avec deux personnes dans notre studio, deux troubles fêtes, non, deux messieurs de la fête. On les avait reçus plusieurs fois, même lors de notre campagne où ils nous avaient fait le plaisir de jouer gratos comme ça pour promouvoir et soutenir Divergence, on s'en souvient. Vous, peut-être que vous vous en souvenez pas, parce que c'était déjà, il y a des lustres, des temps immémoriaux.
Ce qui veut dire que...
C'était l'été dernier.
Mais non, mais on s'en souvient.
J'imagine qu'il y a eu un paquet de soirées depuis. Mine de rien, parce que la devise de notre cher Bouzig, c'est
« Ta vie est un week-end ». Voilà, t'as vu, translation double, quoi.
Yes. Exactement. Garfield, Bouzig.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je ne sais pas si mon micro marche.
Si, il marche. C'est ton casque, alors peut-être qu'il ne marche pas.
C'est pas grave.
Garfield, qu'on retrouve depuis des années, j'arrête pas de le dire. J'ai l'impression qu'à chaque émission, je dis cette phrase. Et oui, tous les jeudis, depuis 1912, Garfield est au Rockstore, Non, tu as même rebaptisé il n'y a pas très longtemps tes soirées, les Soundclash.
Oui, tous les 10 ans, en fait, je change le nom. C'est juste une histoire de marketing. Hein, il n'y a rien qui change.
Dans les années 30-40, c'était le bal à papa. Après, c'était devenu au dancing.
Oui, il y a eu le Papa Gaillot de 82, Papa Gaillot Club, 82-89.
Après, on a connu les années Soundclash. Ça, c'était jusqu'en 2009.
Plutôt orienté breakbeat. Ouais. Maintenant, ça a changé, évolution avec la musique.
Maintenant, oui. C'est les soirées punks, plutôt voilà. Orientées disco, hein, faut le dire.
Ah bon,
ouais,
ah bon.
Non, mais disco, début quoi de soirée, quand même, fin de soirée, si, on new se disco. Rappelle plus, mais c'est pas si disco.
C'est vrai. Et Bouzig, qui officie dans...
Ça, vas-y, je t'aide pas.
Bah, dans plein de lieux, le 8, le...
Le 8,
comment ça s'appelle, le Mix Coffee.
Mix Coffee Club, après d'autres trucs cette année. Enfin voilà, quoi, d'autres trucs. Je fais une bonne tournée avec les Rhinos
après,
aussi en
Bouzig,
Espagne.
Voilà, une carrière plus internationale.
Bon, hein.
Premier tourbus, quoi. Alors ça, c'était bon, quoi.
Et t'es associé, style, tu fais le warm-up des Rhinos.
Ouais, j'ai fait première partie, en fait.
Cet été,
ouais.
Surtout que les Rhinos en Espagne, c'est style les enfants du pays. Quoi. Ils sont bien plus connus qu'ici.
Non, c'est vraiment un truc de fou. Ouais. Ils ont fait genre limite sold out, c'est-à-dire bien
c'est
complet.
C'est l'équivalent des Rolling Stones en Catalogne en termes d'entrée, apparemment, et de folie.
Terrorados, Pieros. Non, c'est vraiment, c'était génial. Quoi. Non, vraiment super. Ouais, c'est vrai que le public au taquet... Et moi, j'ai joué devant personne, c'était génial, c'était super émouvant. Et c'est-à-dire un 20h en Espagne, ça correspond à un 16h en France.
Ouais, c'est ça, quoi.
Mais c'était super, le tourbus. Et puis, une équipe super sympa. Non, vraiment, pour de bon, pour le coup. Non, c'est super, des conditions géniales. Et le bus. Avec un frigo rempli.
Et là, on ne vous invite pas juste pour dire des conneries, c'est que vous avez une soirée à promouvoir, une grosse, grosse soirée, où là, vous avez mis...
Rockstore.
Vous avez mis les couilles sur la table, comme on dit, dans le pays, quoi. Et il y a le Cap Bambino qui ressort. Et deux gars, deux têtes brûlées des Birdy Nam Nam, Poney and Need. Ça, c'est des compagnons aussi un peu de route. Vous les connaissez depuis longtemps. Ça fait des années, quand même, qu'ils tournent un peu dans vos circuits.
Ah, bah oui, les Birdy Nam Nam, c'est des grands amis de Mr. Bouzig.
Ouais, ça fait un petit. Enfin, ouais, je les connais. Ouais, si, je connais surtout Need depuis longtemps et après, j'ai appris à les connaître. Et notamment l'année dernière, où ils m'ont fait faire l'Olympia avec eux, ce qui était quand même un moment génial.
Bah, depuis Gilbert Bécaud, je sais que...
Non, ils sont vraiment trop, super cool à ce niveau-là, et voilà, ils sont fidèles. Et voilà, donc,
puis ils étaient venus à la fête de la musique aussi cette année. Et
puis vous les avez fait venir, vous aussi. Freshly, ils les ont fait venir.
Freshly aussi, il y a un bon moment. Avant que ce soit l'explosion Birdy Nam Nam.
Ouais. Ouais. Et depuis que c'est l'explosion Birdy Nam Nam, je trouve quand même que c'est pas terrible. Mais en toute subjectivité...
Allez, on a combien de minutes là?
Voilà, non.
Je comprends un peu ce tournant, un peu, comment dirais-je, justice-esque.
Ouais, il y a ça, il y a
des... Non, mais c'est au niveau de la production et tout. Maintenant,
c'est trop clean.
Ce qu'il faut s'attendre aussi à un autre tournant. Ils vont
un peu comme les soirées du jeudi au Rockstar.
Ça évolue.
Au départ,
non, mais non, mais le truc, c'est que c'est plus sincère. Ouais, mais leur démarche est plus sincère, sachant que chaque personne a son background musical. Et voilà, ils tentent des trucs. À mon avis, là, ils vont rebosser sur un album Scoop. Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Là, d'ici peu. Et voilà, et je pense que ça se trouve, ça va prendre un autre tournant. Et il faut toujours être surpris. Enfin, s'attendre à être surpris plutôt.
Je crois qu'on fait pas exactement le même son suivant le type de scène. C'est-à-dire, quand on arrive à tout d'un coup jouer devant 5 000, 10 000, 20, 30 000 personnes, on fait un son plus lourd, plus gros, beaucoup plus festoche.
Et festival, plus produit, ouais.
Et voilà, ça joue aussi, je pense. Ils se sont retrouvés sur des énormes festivals.
Ça prend un peu plus de sens en live que quand on écoute l'album comme ça. Enfin, moi, j'ai trouvé. Hein, vraiment.
En même temps, moi, j'aime moins les lives de maintenant que...
Donc, vous n'aimez pas du tout le Birdy Nam Nam de maintenant.
Ah non, mais moi, j'adorais le Birdy Nam Nam d'avant. Vraiment, ah
non,
vraiment.
Non, maintenant, on est beaucoup plus loin quand on les voit en plus. Alors, bah, du coup,
premièrement, on est plus loin. Deuxièmement, ils jouent avec ces platines reliées aux ordinateurs, là, avec vos systèmes. Avant, tu voyais le gars, tu disais... C'était comme un groupe, ils étaient quatre, tu voyais le batteur, le bassiste, le synthé, le machin.
Ouais, mais il y a toujours. Ouais, non, mais il y a toujours.
Hop, oui, ils changeaient leur galette
et
tout.
Oui,
là,
tu sais
mais plus qu'ils font.
Mais c'est pareil, c'est juste une question de technologies quoi, différentes. Genre, c'est juste qu'ils.
Effectivement, c'est comme le jeudi au Rockstar.
Voilà,
on sait
voilà.
Plus qu'ils font.
Sauf
fait
que
maintenant.
Ça, ce qui est bon, c'est après la bourrache, comme ça, le lendemain, il peut se souvenir de ce qu'il a mixé, quoi. C'est vrai que tu te lèves, du coup, tu regardes.
C'est l'informatique, j'ai un historique.
Non, mais
ce
ça
qui
a pas
est
changé.
Bien, c'est que si la Borach est le jour même, tu peux lancer l'historique de la semaine d'avant, non tu peux...
Ouais, mais ça, faut pas le dire.
Donc, quand même, on n'a même pas dit le nom de la. Enfin, le jour, c'est le samedi 30 janvier, c'est au Rockstore. Ouais. Le Rockstore, quand même, ça reste le lieu où il faut faire des choses, les amis.
Ça reste vraiment le lieu où il faut faire des choses, et je pense que pour ce genre de soirée, ah, c'est oui. Quand même.
Putain ouais, c'est pas
le top quoi.
C'est pas la victoire.
Surtout là, c'est vraiment une soirée.
Je sais pas,
qui,
moi, je compose. J'ai pas d'autres exemples. Mais...
Puis là, c'est une soirée où vraiment, ça sort presque un peu du cadre d'une soirée dans des horaires club et etc. avec DJ et tout. C'est quand vraiment, on met vraiment en avant le live puisque Cabambino, c'est quand même un vrai live parce que la chanteuse est super énergique et ils vont jouer assez tard dans la nuit.
Ouais.
Et ça, il n'y a pas 36 lieux où on peut mélanger le live et le clubbing et faire tout ça.
Ça commence à 22h30, ça finit à 5h et c'est quoi ? On retrouve Cabambino vers 1h du mat ?
Un truc comme ça, ouais,
ça va être un peu avant.
Peut-être un peu avant. On ne sait pas encore. Suivant le monde, on verra quoi. Genre, je pense que ouais, ce sera peut-être minuit, entre minuit et 1h quoi. Venez tôt. Genre.
C'est beau quand même sur le flyer de voir Bouzig et Garfield comme ça, comme.
Ouais, bah on va monter un petit duo.
En faire d'autres. C'est la première, mais faut en faire d'autres quoi.
On
est Cabambino, en tout cas, pardon. Cabambino, première fois à Montpellier, est quand même, enfin, genre ouais. groupe.
Après, nous mixer ensemble, ça fait longtemps.
Claque musicale et claque visuelle, hein, parce que ça envoie vraiment le bois et la meuf, c'est minimal, mais bon, c'est...
On écoute un morceau ? Allez. Qu'est-ce qu'on Allez. Écoute ? Ça, c'est...
Je crois que ça va être peut-être Bad Cave qu'on a prévu pour rentrer en matière. Hein. Donc, morceau
du
dernier album de
Cabambino.
Thank you.
Bad Cave, c'est extrait du dernier album de Cabambino, Blacklist. C'est quoi, c'est le troisième album?
C'est, alors, bonne question, je me demande, c'est pas le troisième album.
Troisième, je crois, ouais.
Ouais, si, c'est ça, je crois.
Ils sont jamais passés à Montpellier, Cabambino?
Non. Non.
En tout cas.
C'est beau quand même.
Ouais, ah, c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ça donne vraiment envie.
Et eux aussi, il y a une sorte d'explosion parce que ça, c'était quand même plus ou moins. Enfin, ça reste toujours très underground et ça reste une niche, mais ça fait que un an qu'ils tournent. Là, ils viennent d'Italie, ils repartent en Australie dans une semaine. C'est la folie, quoi.
C'est des gens qui viennent d'où?
De Bordeaux.
Ah ouais,
Bordeaux. Mais c'est quand même depuis qu'ils ont signé aussi. Enfin, ils sont chez Because, ils ont toujours leur label, mais Because s'occupe d'eux. Enfin, il y a Corrida aussi, donc ça a pris une ampleur un peu plus fat, quoi. Donc là, ils enchaînent pas mal. Mais ouais. Jamais Montpellier, donc.
Parce que là, carrément, ouais, ça a pris vraiment un élan complètement international. On le voit, ils disent Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, Europe de l'Est. Et souvent, les cordonniers les plus mal chaussés, nous qui sommes à peine à 400-500 bornes de Bordeaux.
C'est vrai. Hein.
Walou.
Ouais. Ah oui, t'as raison, ils vont au Rockstar et 4 jours après ils sont à Melbourne.
Ouais, et puis
sur leur Max Race.
Non, mais ce qui est bon quand même, c'est que c'est
et
la
après,
seule.
Ils sont à Sydney, ensuite ils reviennent.
Ouais, ouais, c'est ça en fait. C'était...
Après, mais l'île a été rajoutée.
Mais pendant un bon moment, là, ils ont fait une tournée Italie. C'est la seule ville française, Montpellier. Et donc, donc c'est plutôt cool quoi, de pouvoir les voir ici. Je pense que ça va venir même de Marseille, un peu plus loin.
Il y a des chances, en tout cas, et il faudra pas les rater. C'est à minuit, Allez, on va dire, venez à minuit.
Venez surtout
à
10h.
Avant, qui c'est qui fait le warm-up, alors?
Alors,
c'est nous. Il y a un pote d'Am The Stamp qui mixe au 8 aussi, qui va sûrement mixouiller au début. Pendant les balances. Non, au début, genre un peu plus tôt. Enfin, ouais, au début, quoi. Et nous, on prend
un petit warm-up, après,
ouais, on enchaîne, et après.
Peut-être un peu plus électrique.
Après Cabambino, et ensuite, quand même, Ponénide sur 4 platines. Donc, visuellement intéressant, musicalement aussi. Et voilà, moitié des Birdie Nam Nam qui finissent la soirée.
Et là, il la joue vraiment Birdie Nam Nam, c'est-à-dire c'est des jeux de passe-passe.
Non,
fond,
mais ça reste, à mon avis, c'est un peu dans ce que, enfin, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ça reste un peu dans l'univers de l'album, un peu électro, raveux, tu vois, genre ce que t'aimes pas trop, quoi. Mais mais maintenant c'est plus diversifié que l'album.
Puis ça va être beaucoup plus déconstruit, je pense. Ça va être un vrai set de DJ. Ils vont être à deux. Il y a un
Ça scratch, ça scratch où ils ont plein d'effets. Voilà, ils sont à 2 sur 4 platines et 2 tas de mixage avec effet, et voilà quoi. C'est un DJ set, bien sûr. Hein.
Les deux figures du Grand Sud électro, habituées des pogos montpelliérains sous vodka.
Alors ça c'est...
Donc ça, c'est ni des pônes.
Non, c'est vous qui les gardez.
C'est dans le flyer, ça.
Ouais.
C'est lui, parce qu'il découvre, parce que l'émission découvre le flyer en même temps. Ouais.
Vous la connaissez, oui, la personne qui a écrit le flyer
ou... Ouais, on la connaît, bon, ouais, c'est un graphiste du Rockstar qui
boit de la vodka.
Boit de la vodka, qui peut se flasher.
Il a un nom d'animal.
Sur les flyers.
Non, pas d'huître.
Il y a les petites coquilles.
On écoute un deuxième morceau, chers amis. C'est quoi?
C'est un bout de Birdie Nam Nam, non?
Non, c'est toujours Cabambino.
C'est toujours Cabambino.
Je tenais juste à préciser quand même que Cabambino sont là parce que Laure Dumas, mon amour, ma femme, genre, et donc qui est au taquet depuis longtemps. Non, c'est vrai, c'est pas rien.
Ah, c'est
et
vrai,
c'est vraiment elle qui a insisté pour les faire venir. Elle en pouvait plus. Limite un peu relou. Donc voilà.
Et pour calmer sa meuf, il programme Cabambino.
Voilà. To live just behind her blue screen.
en train de kiffer sur les motos, hein, parce que pour, les auditeurs le savent pas, mais Bouzix a pu s'acheter une moto parce qu'il a gagné à ce super jeu télévisé.
Et famille en or.
Une famille en or, voilà. Je me rappelle plus.
C'est vrai.
Avec une des séances quand même les. Je pense à des visionnages les plus mémorables de la famille Anor qui a pu exister en France, c'était au Saint-Roch.
C'était beau quand même.
Je n'avais jamais vu une famille Anor au Saint-Roch.
Plus de monde que pour un match de l'OM au Saint-Roch. Ouais.
C'était grand.
Record battu.
Capambino, c'était un deuxième extrait de leur musique. Ça tabasse quand même. Donc je pense que, comme on disait, sur scène, c'est assez énorme. Ils disent 50 minutes maximum parce que la chanteuse se met rudement à l'épreuve, apparemment.
Ouais, elle se fait un peu mal apparemment. Ouais, elle saute de partout. Enfin, non, ça envoie vraiment le bois. Et elle s'écorche du genou même. Enfin, c'est vraiment à voir quoi. Et c'est une claque autant visuelle que sonore.
Vous l'avez déjà vu, vous ?
Ouais.
Ouais.
On l'a vu à Pantiro cet été.
On l'a vu à Pantiro et c'est là où justement on l'a rencontré aussi. Le mec qui se place à chaque fois. Je faisais les interplateaux. mais c'est vrai, ils sont super cool. Et à l'Olympia aussi, notamment pour le live de Birdie où on était aussi. Et ça s'est fait comme ça. Et eux, ils ont qui vraiment. J'ai eu un mail de Caro là, qui vraiment de venir, qui est vraiment en fond de venir jouer ici. Et elle me dit qu'elle a toujours ce flip un peu. De jouer là où elle a jamais joué. Enfin, je trouve ça cool, quoi. Elle me dit, ouais, j'ai la pression, que je veux que tout soit, genre, voilà. Ils sont super relous. non, ça va être génial. Ils ont
la niaque. Après, la pression, justement, dès qu'elle rentre sur scène, ça explose, quoi. C'est l'hystérie. Voilà. C'est une hystérique.
Je pense que vous pourrez jeter un œil sur l'heure du mas aussi qui sera devant la scène. Ça va être pas mal. Il y aura deux lives ce soir-là.
Ce format My Life is a Weekend, de façon grosse soirée, ça va perdurer ?
Faut demander au boss. Hein. C'est un peu boss de Bouzix de My Life is a Weekend.
C'est juste que Chat m'a dit viens, on va faire un truc à Divergente. Je fais hop, hop, grave. Et de toute façon, je te suis toujours. Bah, c'est vrai que la dernière fois, pareil. Quoi. Dès que tu y vas, j'y vais.
Non, moi, je crois que c'est un format qui peut. Qui peut perdurer, qui peut marcher.
Ouais. Ça serait quoi ? Ça serait le renouveau des Freshly Cut dans un sens ?
Non, parce que j'en parlais à Guillaume. Guillaume Freshly, il est quand même super. Enfin, il est toujours chaud pour faire des soirées un peu concept comme ça. C'est-à-dire, par exemple, mélanger ce côté genre live, DJ.
On a toujours été chaud pour faire ça. Après, ouais, il y a les contraintes techniques et les techniciens du son qui ne sont pas toujours là la nuit et tout. Voilà. Mais c'est un format qu'on veut faire. Il n'y a pas de raison que faire un live soit à 21h alors que quand tout le monde est chaud à 3h du mat.
C'est clair.
Mais je pense que voilà, le Rockstar, c'est cool. C'est une autre alternative à la Dune, à la Villa Rouge. C'est un mode clubbing un peu plus live, un peu plus genre.
Ceci dit, les deux que tu as cités, moi je ne suis pas allé depuis 93. Je ne sais pas trop, mais.
Oui, mais c'est des endroits où quand même.
Je le comprends. Ouais. Le dernier live que j'ai vu à la Villa Rouge, pourtant j'aime bien. J'aime bien le groupe qui passait, hein, mais c'était assez terrible. We Are Enfants Terribles.
Ah oui, c'était We Are Enfants Terribles. Ça se prête pas du tout.
Il y avait 20 personnes.
Ça se prête pas du tout au live.
C'est ça le truc. C'est quoi.
On peut pas leur vouloir, c'est pas l'étouffer pour ça. C'est un club.
Mis à part le Rockstar.
Donc je pense qu'il y en aura d'autres.
Et le Big Bisou, qui a été rebaptisé. Voilà, c'est les deux clubs où on peut faire des choses un peu live.
Non, mais Rockstar Forever.
Il y a un côté punk quand même dans toute cette affiche. Un côté rock, c'est pas l'Electro House de samedi soir.
Ouais, c'est vrai.
Messieurs, on va pas écouter le troisième morceau que nous avions planifié, qui est un Birdie Nam Nam. Pour ça, vous avez qu'à chercher sur Google Birdie Nam Nam. Et on va se quitter avec un morceau de Soul and Skyrider Band. Ouais, merci Garfield. Moi, j'aimerais du
tout. Au revoir tout le monde.
Au revoir, ouais. Messieurs. Soul, c'est. Ouais, c'est le c'est le numéro 5 du CD, mon cher Eli. C'est la soirée du 25 janvier au Baloir. C'est un monsieur qui est chez Anticon, me semble-t-il.
Exactement.
Et c'est nos amis de Confetti Noir, Seb Casino et consorts qui organisent ça. Et ça va le faire. Et en plus, il y a une espèce de DJ set, c'est Wool Recordings avec donc nos amis des Franck Rebeyroll versus Rocky to the Moon. Et là on y met quoi derrière? C'est
Piaxon.
C'est Pierre.
Ça reste dans la famille tout ça. Hein.
Tout ça reste très famille.
C'est bon tout ça.
Et c'est de l'américain au baloir. Ce qui est marrant, c'est toujours de voir ces formes vachement bien dans un aussi petit lieu. Et en général, l'ambiance est très très bonne. Et c'est lundi soir 21h, 10€, 8€ en prévente. Et pour les adhérents, confetti noir. Ciao, ciao. Salut François. Merci Ellie beaucoup en régie. Rediffusion samedi 20h. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour le premier volet d'un portrait radiophonique autour de Arkaos, le cirque.
Le cirque de bruit et de fureur qu'on est allé voir juste avant les fêtes du Nouvel An.
Le bruit et la fureur.
My reputation precedes me. I can't grow past it. Being easy is easy. I swim up the river to the stars, behind the mountains where machines need me. To be cool when all is gutted, infernal mess. Hold the opinions out the window. Catch a wind burn. You have no heart, no ethos to slow you down. You would stand on your brother's face to catch a fleeting memory. A camera shot, catch a cold shoulder permanent. I'm sensitive, like the rainforest, like Ayatollah Khomeini's deepest wishes. I need a second chance, a second face, a second heart, a second earth. I need a second chance, second face, second heart, a second earth. I need a second chance, second face, second heart, a second earth. I need a second chance. I'm only alive for a second, which is why father stopped kicking. The leeches are at my heels. The river is burning out there. There is fun to be had without tourniquets. Amongst rats, the referee is always a cat. Amongst men, the referees don't matter. In a past life, I slayed a monster with one hand to save the city. Turned around and burned it with the other. We didn't deserve peace. We deserve mounds of clay, grease. While everyone else is running so fast that they caught insects in their teeth. They sound like crickets, and I'm still at the gate. Did I do the right thing? Should I call up the locusts? Should I Twitter up a storm or remain focused? This game is full of pits and mazes with no exits. Back in the beginning, digging with fingernails still bleeding. This game is full of pits and mazes with no exits. Back in the beginning, digging with fingernails bleeding. Fingernails still bleeding. The other day, someone thanked me for making real music. My response, art imitates life. The worse the music it is, the real of it is. I'm a fake on pieces of wood, pinned like an executed slave or a bug. That might be true if the sun would only show. I don't want to be real like a prison guard or a bank teller or politician. This is my castle, only ghosts can